Les grandes voix d'Europe 1.
10h-11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le débat des grandes voix historiques d'Europe 1. Comme chaque samedi, on va prendre le temps de la réflexion pendant près d'une heure pour décrypter l'actu de la semaine avec Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta et Gérard Carrérou. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Sébastien.
D'abord, bien sûr, au sommaire, le drame de Rambouillet, une fonctionnaire de police de 49 ans tuée hier dans un commissariat où s'est rendu Jean Castex dans l'après-midi.
Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte.
Comment lutter justement face à ce terrorisme dit low cost, endogène? Faut-il une réponse pénale supplémentaire? Après l'émotion, l'heure est déjà à la polémique. Les forces de l'ordre prises pour cible à Rambouillet, mais aussi à Tourcoing cette semaine, semaine marquée par l'offensive d'Emmanuel Macron sur le régalien. Nous allons y revenir avec vous, les grandes voix, longuement lors de ce premier débat. Au sommaire également, un homme qui n'est pas candidat à l'Élysée officiellement, qui n'y pense pas officieusement quand il ne se rase pas. C'est Édouard Philippe.
Il ne se rase plus.
Je préfère ceux qui changent de parti pour rester fidèles à leurs idées que ceux qui changent d'idée pour rester fidèles à leur parti. Bah, tout est dit.
Il ne se rase plus en effet, il n'est pas candidat, mais il fait peur, à tel point que le patron des LR, Christian Jacob, le qualifie de traître. J'attends votre regard, les grandes voix sur Édouard Philippe. Et puis nous évoquerons la mort au combat du président tchadien Idriss Déby et ses répercussions pour la France dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. Emmanuel Macron d'ailleurs a assisté hier à ses funérailles.
La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad.
Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. Elle s'appelait Stéphanie. Elle avait 49 ans, deux enfants, deux filles de 13 et 18 ans, fonctionnaire de police, agent administratif au commissariat de Rambouillet. Elle était en civil, rentrée de sa pause quand elle a été attaquée au couteau par un homme de 36 ans, inconnu des services de renseignement qui aurait crié « Allahu Akbar » avant d'être abattu par les collègues de Stéphanie. Les grandes voix, on a entendu dans le sommaire Jean Castex, Emmanuel Macron également, s'est aussi exprimé via un tweet « Nous ne céderons rien face au terrorisme islamiste », a-t-il dit. Ne rien céder, une détermination intacte, mais que peut-on faire face à ce terrorisme dit low cost, endogène, quasiment indétectable? Gérard Carrérou.
D'abord, je dirais que c'est quand même pour la France un nouveau drame. Il y a des moments où, avec la Covid, on finissait par oublier le terrorisme et ses drames. Là, ça nous rappelle brutalement, et je pense à cette famille, à cette femme et ses proches. Mais c'est pas seulement un drame donc pour le pays globalement, c'est aussi un drame politique pour le président de la République, puisque ça correspondait à la fin d'une semaine qui devait être pour lui marquée par une forme de reconquête du terrain sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, depuis des semaines, de problèmes sur la sécurité, aussi bien dans nos villes et nos banlieues, des procès, etc. Tout ça, on y reviendra sûrement. Et pour le président de la République, c'était le moment de dire « Attention, sur ce terrain-là, j'ai des choses à dire ». Il avait fait sa grande interview du Figaro, il a même fait une interview à CBS aux États-Unis. Enfin, il était engagé.
Il était à Montpellier sur le terrain
aussi. Il était parti pour une grande offensive. Et évidemment, ça sonne comme une sorte de patatras, c'est raté, puisque à partir du moment où il y a l'attentat, toutes les propositions, il y en avait d'intéressantes, on en parlera sans doute, mais elles sont un peu remises au deuxième plan, avec le retour en force du terrorisme.
Michel Cotta, l'attaque a eu lieu dans un sas hier à Rambouillet, pourtant sécurisé, hein, dans lequel le meurtrier a réussi à s'immiscer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit « il faut renforcer davantage la sécurité dans les commissariats et les gendarmeries ». Ça passe par quoi ?
Ça passe par quoi ? Ça passe d'abord par la reconnaissance qu'en ce moment, qu'il s'agisse d'actes terroristes ou qu'il s'agisse d'actes de vandalisme, d'incivilité, et encore les mots sont faibles, l'autorité est attaquée en la personne des policiers. Je crois que des policiers, des gendarmes. Donc c'est le même problème. C'est l'État, l'incarnation de l'État qui est attaquée. Et c'est vrai qu'il a commencé à réagir, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, en parlant le premier d'islamisme politique. Là, il avait fait une très belle interview, mais effectivement, on se sent un peu démuni par rapport à ce qui est proposé depuis des années, hein, parce que ça fait pas, c'est pas 5 ans que ça dure, à ce qui est proposé face à un terrorisme que finalement personne ne voit venir souvent et sur lesquels personne n'a de remède.
C'est toute la problématique de ce nouveau terrorisme dit low cost par certains syndicats de police.
C'est inapproprié.
Endogène, hein. Oui, endogène
terrorisme
en tous les cas.
Low cost, c'est inapproprié complètement quand on voit les résultats justement de l'attaque. Enfin, low cost me paraît plutôt utilisé dans les camps de vacances ou des voyages.
On est
mais
d'accord.
Certainement
on
pas
est d'accord,
pour le
Charles
terrorisme.
Catherine, vous vouliez ajouter un mot à ce que vient de dire Michel Cotta, sachant que le Premier ministre vient de dire « la République est attaquée
oui, »,
comme vous le soulignez.
D'accord, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre Mais ce qui est frappant, vous voyez, c'est que le président vient de faire une grande interview dans le Figaro, et la une, c'est « je suis pour la France tranquille, les gens vont vivre paisiblement ». Bon. Or, dans les Yvelines, Rambouillet est une ville jusqu'ici, mais très paisible. Il ne se passe jamais rien. C'est une ville bourgeoise où vraiment on s'attend à tout, sauf à un attentat islamiste. Et ce qui est frappant pour les gens qui habitent dans les Yvelines, c'est qu'il y a déjà eu des attentats dans les Yvelines contre des policiers. C'était sous la présidence Hollande, à Magnanville, où un commandant de police, le commandant des polices des Mureaux et son épouse qui travaillait au commissariat de Mantes-la-Jolie ont été tués chez eux à coups de couteau.
C'était
mais vous voyez,
2016.
C'était les Mureaux égorgés. Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, ce sont des réservoirs d'islamistes. On sait, avec des populations homogènes, très islamistes, pas Rambouillet. Et puis, il y a eu Trappes, avec Samuel Paty. C'est-à-dire que les Yvelines, c'est quand même un réseau d'islamistes, mais qui restait un peu dans leur petit périmètre de ville. Et là, maintenant, ils viennent à Rambouillet. Vous voyez, donc ça va faire peur à tout le monde. Et alors, ça, c'est un détail, c'est autre chose. Je sors un peu du sujet, mais le Gérard Larcher,
le président
du Sénat, qui est ancien maire de Rambouillet, n'est pas venu hier. Pourquoi ? Parce que lui, il est en Arménie, où il a amené tous les présidents de groupe en Arménie, pour soutenir les Arméniens. Et parenthèse, là, je vous dis que Joe Biden va reconnaître et condamner le génocide arménien, ce qui est une première, alors qu'Erdogan lui a dit « attention, ne le faites pas ». Et là, il devrait le faire aujourd'hui.
Voilà,
c'est une parenthèse, mais je tenais à le dire.
On revient sur le sujet du jour, Charles Villeneuve, cette attaque contre une policière après les attaques évoquées par Gérard Carrou et Michel Cotta contre d'autres policiers. Sauf que là, il y a eu un mort, une fonctionnaire de police. Comment on fait pour empêcher ces actes endogènes indétectables ? Puisque l'homme n'était pas, l'assaillant n'était pas fiché ni par les policiers, ni par les services de renseignement.
On fait comme on peut, c'est-à-dire que le renseignement doit agir, mais le renseignement, si vous voulez, tient à une méthode qui est très difficile à réussir, notamment justement dans une population homogène, comme vient de le décrire dans les Yvelines Catherine Ney, c'est que l'infiltration est très extrêmement difficile. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me paraît, tout a été dit là autour de cette table par rapport à cet attentat qui a percuté justement la campagne de communication du chef de l'État, qui s'aperçoit que, aux côtés de la crise sanitaire, la crise économique, il est bien évident que la question de la sécurité dominera la campagne présidentielle. Ce qui est nouveau, je dirais, c'est que cet attentat et tout ce qui s'est produit, le procès de Viry-Châtillon, ou sur les 16 personnes qui ont attaqué une voiture de police et brûlé 2 fonctionnaires, 5 seulement ont été condamnés.
Alors c'était 13, et en effet 8 acquittements et 5 condamnations,
voilà.
Vous avez raison.
Tout ça s'ajoute, si vous voulez, au sentiment de démoralisation, de décomposition du système de la police nationale. Si vous voulez, je crois que j'en discutais avec un député ancien républicain qui fait partie de la cellule politique du président de la République. Bon, eh bien, je lui disais, vous ne vous rendez pas compte de la profondeur de la crise morale dans laquelle est la police. Je dirais que si cette police était atteinte d'un cancer, elle est en phase terminale. Et vous ne vous rendez pas compte de ça, parce que, et d'ailleurs, le pouvoir est en train de s'en rendre compte à travers les tables rondes du Beauvau de la sécurité, qui montre bien que le sentiment d'une insuffisance de la réponse pénale, considérée comme largement insuffisante par le corps des forces de sécurité intérieure, s'y ajoute une activité opérationnelle confrontée à une pression sécuritaire inédite. Et cet attentat s'inscrit dans cette pression sécuritaire inédite.
Et on continue à en parler, Charles Villeneuve, avec Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotta, juste après cette première pause, avec cette semaine, en effet, qui se solde par ce drame, après une offensive médiatique et sur le terrain d'Emmanuel Macron sur les questions régaliennes. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h passées de 21 minutes sur Europe 1. Les forces de l'ordre prises pour cible cette semaine en France. On a parlé dans la première partie de ce débat de l'attaque terroriste de Rambouillet. Venons-en à présent à ces tirs de mortier qui ont visé le domicile d'un policier à Tourcoing cette semaine. Des tirs de mortier également contre des pompiers qui intervenaient après l'incendie criminel d'une école maternelle à Lille. Et ce qui a valu cette sortie sur Europe 1 de Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle après l'interview fleuve d'Emmanuel Macron sur la sécurité.
Nous sommes certainement l'un des très rares pays au monde où il y a tous les jours des agressions contre l'État, une mise en cause des forces de l'ordre et qu'il n'y a pas de riposte.
Pas de riposte, dit Xavier Bertrand. Emmanuel Macron disait exactement le contraire la veille. Catherine Ney l'a évoqué avec son droit à la vie paisible, Gérard Carrérou.
Oui, moi je voudrais insister sur la police parce que quand même, constatons ce qui se passe en France depuis un certain nombre de mois. Tous les jours, toutes les semaines. Dans des villes, dans des banlieues, mais pas seulement dans des banlieues de grandes villes, dans des périphéries ou dans des villes de type ville moyenne, 20 à 30 000 habitants, et Rambouillet, on parle de Rambouillet d'hier. Dans tous ces endroits, il y a effectivement des attaques contre notre police. Et il y a dans le même temps des attaques politiques permanentes d'une partie de l'opposition, notamment de l'extrême-gauche, notamment des mélenchonistes et assimilés, des groupes qui se sont constitués pour dénoncer la police, le racisme de la police, le racisme endémique, le racisme systémique. On n'entend que ça. Et comme par hasard, comme s'il y avait, et n'y a-t-il pas a priori, une réflexion à avoir sur une sorte d'alliance de convergence idéologique et d'alliance objective entre ceux qui attaquent la police que je viens de rappeler, partout en France, et ceux qui font sauter, effectivement, ceux qui tuent des policiers à la manière des terroristes, ces terroristes de l'ère du temps, comme les décrit Gilles Kepel.
Moi, je m'interroge là-dessus.
Parce que vous savez, il suffit de connaître les révolutionnaires. La révolution, il y a les activistes de la révolution et il y a les idiots utiles qui appuient par l'extérieur. Eh bien, l'extrême gauche aujourd'hui joue un rôle terrible en étant les idiots utiles dans cette lutte, parce qu'ils attaquent systématiquement notre police. La police, c'est la base d'un État républicain. Tout le monde le sait, tout le monde le sent, on ne peut pas laisser la police agresser tous les jours.
L'extrême-gauche, idiot oui. utile des terroristes, enfin, Michel Cotta ?
Oui, d'une certaine façon, puisqu'on s'aperçoit bien que 71% des Français aiment leur police, sont attachés à leur police. S'ils sont donc attaqués, c'est par des minorités, mais des minorités effectivement agissantes. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'extrême-gauche n'est pas le seul... la seule raison d'un tel terrorisme. Après tout, ça fait des années que le terrorisme existe et tous les gouvernements se sont heurtés à la difficulté de faire défendre leur police et de mettre fin à ces actes de terrorisme. Donc on ne peut pas dire que l'extrême-gauche est à la base de tout, simplement.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais simplement.
Je constate une alliance objective.
Il y a une atmosphère. Il suffit de regarder entre nous, il suffit de regarder les journaux. Il y a une atmosphère qui ne correspond pas sans doute à ce que pensent les Français de l'image de la police telle qu'elle est donnée et par les journaux et pas de temps en temps d'ailleurs par nous-mêmes.
Catherine Ney.
Oui, mais l'extrême gauche charrie de la violence parce que pendant tout l'épisode des Gilets jaunes, en fin de manif, qui attaquait les policiers avec en leur tirant dessus, en leur lançant des pavés, c'était les Black Blocs, c'était l'extrême gauche. C'était des gens d'extrême gauche.
En l'occurrence, pour revenir à ce qui s'est passé à Lille.
Mais il y a une différence entre les Gilets jaunes et les Black Blocs qui venaient en fin de tout casser sur le parcours. Ce n'étaient pas forcément des Gilets jaunes. En tous les cas, eux, c'était des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, et tous ceux qu'on a arrêtés, c'était des militants d'extrême gauche.
En ce qui concerne l'école brûlée à Lille, Charles Villeneuve, Gérald Darmanin est allé sur place pour faire part de son dégoût, les tirs de mortier sur les pompiers, et en disant « j'espère qu'il n'y a pas de lien », il était ironique, avec nos opérations de police contre les trafiquants de drogue.
Ben si.
Il était ironique.
Oui, il était ironique, mais en réalité, c'est tout le sujet. Si vous voulez, pourquoi il y a ces tirs de mortier contre les Bleus, c'est-à-dire contre les policiers. Pourquoi il y a ces incendies qui ne sont pas spontanés, notamment celui de l'école, justement? Parce que vous dérangez, vous tapez, si vous voulez, au cœur du système qui rapporte. Le trafic de drogue, c'est l'élément fort de ce système économique souterrain qui fait vivre tous ces territoires dits perdus, qu'on qualifie de perdus de la République. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui a démissionné, a dit tout ça, de toute façon, de manière très claire, on le sait. Bon, mais d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a une offensive de la police judiciaire, y compris des sections de recherche de la gendarmerie, contre ce trafic de drogue, qui sous-tend, si vous voulez, toute cette délinquance. Le problème de ceux qui étudient et qui observent justement la sociologie de ces banlieues, à l'heure actuelle, la question qui les anime, c'est quand ces trafiquants de drogue, ces bandes, vont sortir de leur quartier et venir dans les quartiers cossus qui les alimentent, parce qu'il y a des acheteurs, évidemment, qui viennent souvent des quartiers cossus, notamment de Paris. J'ai observé ça en regardant, si vous voulez, le travail des BAC, des brigades anticriminalité. Et donc, un jour ou l'autre, nous aurons des affrontements de ce type, c'est-à-dire des attaques dans ces quartiers, du racket qui va s'instaurer, et ça n'est pas fini. Donc, c'est cette extension-là et la difficulté de la campagne de communication du président de la République sur le retour de l'État doit tenir compte, justement, de cette situation globale.
Et une chose est sûre, c'est que le thème de la sécurité sera un enjeu majeur du pays, comme l'a dit Emmanuel Macron, et qui, d'un mot, dites-moi, Michel Cotta, parce qu'après
La première semaine où on voit depuis longtemps la conjonction entre justement la lutte contre la drogue, le démantèlement, etc., et un acte de terrorisme qu'on avait presque oublié. Mais c'est la première semaine où la conjonction se fait. Et c'est pour ça qu'en effet, la police doit se dire en ce moment, quelle est
la
comment
cible.
A dit un psychologue, a dit au fond la police est le symbole de l'État mécréant.
C'est la limite aussi de la compréhension qu'on a pu reprocher au président de la République au fil des 3 ou 4 premières années, une forme de compréhension pour un certain nombre. Si. En même temps, dans le domaine aujourd'hui, policier n'a plus sa place. On ne peut pas dire une chose au Figaro et dire un peu le contraire à la CBS pensant que les Français n'écoutent pas CBS.
Si les grandes voix. On va passer à notre prochain débat. L'actualité politique de la semaine marquée par deux événements, une victoire possible de Marine Le Pen à l'Élysée et un outsider qui dit ne pas penser à la présidentielle, Édouard Philippe.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 pour ce débat des grandes voix en compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Le deuxième thème aujourd'hui, celui qui était invité exceptionnel d'Europe 1 et de Michel Denisot en début de semaine, Édouard Philippe.
Je préfère ceux qui changent de parti pour rester fidèles à leurs idées que ceux qui changent d'idées pour rester fidèles à leur parti. Bah, tout est dit.
Édouard Philippe qui cite l'une de ses icônes, Churchill. Édouard Philippe, un homme qui a trahi la droite, selon les propres mots de Christian Jacob, le président des Républicains.
Parce que c'est sauvé en courant et en nous trahissant. Et la réalité, aujourd'hui, comme chef de gouvernement, on lui doit tout l'échec de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Notre-Dame-des-Landes, celui qui a tout lâché aux voyous, aux casseurs, c'est Édouard Philippe. C'est aussi lui qui a été incapable de porter la réforme des retraites. 3 ans de parlotte pour être incapable, au bout du bout, de réformer. C'est aussi celui qui a fait que les dépenses publiques sous Emmanuel Macron ont augmenté plus vite que sous François Hollande. Et puis, c'est quand même celui qui nous a amené les gilets jaunes. Donc moi, Édouard Philippe, vous expliquez que c'est le candidat de la droite, j'ai un peu de mal, parce qu'il est caution, ça.
Il fait peur à ce point, Édouard Philippe. C'est un candidat potentiel à droite, Catherine Ney.
Normalement, pas pour les prochaines présidentielles. C'est un homme qui est en réserve, qui a sûrement de l'ambition, qui a les moyens de son ambition, qui travaille, qui réfléchit, qui a écrit un livre et qui ne dit pas qu'il va être candidat, mais il ne dit pas qu'il... tout peut arriver. Il dit la prévisible.
Quand on écoute Christian Jacob, en tous les cas, il fait peur.
Mais pourquoi Christian Jacob dit ça? À qui parle-t-il? Là, il s'exprimait dans un live sur Facebook avec le nouveau président des jeunes LR, qui s'appelle Guilhem, je vais vous retrouver son nom, mais enfin bon.
C'est les jeunes LR.
C'est
oui.
les jeunes LR, voilà, qui étaient soutenus d'ailleurs par, Guilhem Carayon, voilà, qui était soutenu par François-Xavier Bellamy, Retailleau et d'autres et tout ça. Mais s'il fait ces remarques-là, qui sont quand même largement contestables, on peut revenir tous les attaques qu'il fait, c'est parce qu'il a peur. Il voit bien aujourd'hui que dans l'électorat de droite, eh bien, Édouard Philippe, il séduit. Il séduit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Parce qu'il a une apparence de jeune et tout ça, c'est... mais surtout parce que chez LR, il est jeune et c'est parce qu'à LR, ils sont orphelins d'un candidat. Mmh. On va arriver en septembre, on ne sait pas si on fera des primaires, aucun candidat n'est vraiment crédible. Et donc, c'est la peur de voir ces jeunes aller vers...
Gérard Carrérou,
oui.
Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Cette semaine, moi, je trouve qu'il y a deux phénomènes politiques qui s'additionnent ou qui se... En tout cas, qui font l'intérêt de la politique et de la prochaine élection. Il y a ce que j'appellerais la petite musique. La petite musique Le Pen. Madame Le Pen peut gagner, etc. Tout ça, ça a commencé avec la grande étude de la Fondation Jean Jaurès. Peut-elle gagner, etc. Mais pas seulement. Dans l'opinion se répand cette idée. Ah, peut-être qu'elle peut gagner. On vous pose des questions ici ou là. Elle peut gagner, etc. Et dans cette même semaine où il y a cette interrogation, ce qui veut dire, en creux, ça veut dire si elle peut gagner parce que Macron ne serait pas forcément à la hauteur de gagner, dans le même temps, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu s'installer sur la scène politique un homme tranquille, à travers un livre qu'il vient de publier, qui dit effectivement dans ses interviews des choses aimables, pas grand-chose intéressante au niveau de la politique aérie, c'est-à-dire au niveau de « alors, je suis candidat, je ne suis pas candidat ».
Il se place au niveau des idées.
Il se place au niveau des idées, de son bilan, de ses lectures, etc. Mais le fait est qu'au bout de la semaine ou des 15 jours, il est installé, il ne dit rien, mais c'est le sphinx du Havre qui est là. Et quand on parlera de la campagne et qu'on dira « qui va être candidat ?», on n'en sait rien. Les primaires ici, les primaires là ou pas, elles n'ont pas eu lieu. Mais il y a quand même quelqu'un qui est arrivé subrepticement, si j'ose dire, qui s'est installé fortement. Et donc, qui a fait une première opération.
Oui, c'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un que tout le monde va voir. C'est ça qui est intéressant, que tout le monde va voir, soit qu'il vienne du monde de Macron et qu'il regrette de voir Édouard Philippe partir, ça existe. Mmh. Et même, effectivement, et c'est pour ça que Christian Jacob a réagi, et même du côté des Républicains, beaucoup de gens vont le voir. Donc, c'est un peu. Au fond, Nicolas Sarkozy a été longtemps le parrain de toute cette aura républicaine. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de parrain qui ne dit pas son nom.
Le nouvel imam caché.
Qui même dit oui. non, pas du tout, ça ne me concerne pas, je ne suis pas le parrain. Mais qui existe quand même.
Alors, le parrain, le sphinx du Havre, l'imam caché, Charles Villeneuve.
Non, mais moi, je suis assez d'accord avec cette approche-là. Parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est, sur le fond, est cruel, il est assez cruel, et surtout, c'est un livre, et c'est évidemment Édouard Philippe, qui ouvre une alternative tranquille. C'est un livre plein de fausses innocences. Je voyais Catherine Ney, Stabilo bosser en permanence un certain nombre de petites phrases, et quand on décrypte ces petites phrases, on se dit, finalement, il y a une sorte de déstabilisation tranquille. Et si les snipers macroniens et républicains, comme Christian Jacob, prennent leur flèche du part dans leur carquois, c'est bien parce qu'ils sentent le danger qui approche. Maintenant, juste une remarque sur la trahison.
Allez-y, Jean.
Alors, moi, ça me fait rire d'entendre Christian Jacob sur la trahison, parce que l'histoire de la trahison de la droite, mais elle est remplie de trahison. Mmh. Rappelons-nous, Chirac a trahi Giscard, Balladur a trahi Chirac, Sarkozy a quitté Chirac pour aller avec Balladur, Fillon a trahi Sarkozy. Les deux seuls qui n'ont pas trahi, ils sont restés sur le carreau, c'est Juppé et Séguin. Alors, la trahison...
Vive la trahison
mais c'est l'éloge de la trahison.
Alors, vous parliez de Stabilossé. Moi aussi, j'ai Stabilossé quelques lignes. Ah. À la fin du livre, d'ailleurs, il marque signature. Catherine Ney, Michel Cotta, Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel et plein d'autres. J'imagine qu'il pensait à vous, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Adolescent, nous guettions ces grandes voix, ces grandes signatures. Plus tard, nous les connaîtrons. Pour beaucoup, nous les apprécierons. Ils en ont vu d'autres. Ils ont souvent en commun le sens de l'histoire et l'amour du mot juste. Et eux, que se disent-ils en nous voyant, en comparant avec les très grands qu'ils ont côtoyés ? Catherine Ney, Michel Cotta, vous êtes cité. Que dites-vous ?
Je me dis... Je me dis ben merci ben, de nous passé, citer, quoi. Que le temps a passé, que pour eux, old is beautiful.
Mais peut-être sur son avenir présidentiel.
Comment ?
Peut-être sur son avenir présidentiel.
Mais non, mais je veux dire, c'est...
Je oui, me dis que c'est une manière très agréable de nous oui. parler, mais mais que
non,
ça
mais moi,
ne
je pense
pas
qu'il en
des
a
problèmes.
Un. Je pense qu'il en a un, parce qu'il est jeune. Il gère très bien Le Havre, pour ceux qui connaissent Le Havre. Et manifestement, il est sorti avec une image d'homme extrêmement pédagogique, tranquille, serein, oui. et qui maîtrise oui. très bien
et
son appel.
Il, il est en réserve.
Il est en, comme il est en réserve.
Il est en réserve de la République. Oui, mais vous savez, de la réserve au recours, il n'y a qu'un pas à franchir. Or, il y a eu la disparition politique. La disparition politique, je dis bien, en tant que faiseur de roi de Nicolas Sarkozy à droite. Que...
Alors, et ça, c'est. Et la nature a horreur du vide.
Et la nature a horreur du vide. Bon,
là, maintenant, il est là.
Oui. Je vous arrête là. Oui. Voilà. Je vous arrête là. Édouard Philippe n'est pas candidat, contrairement à Marine Le Pen, qui, elle, rêve d'Élysée en 2022. Et c'est une possibilité non négligeable, nous dit l'étude de la Fondation Jean Jaurès, dont parlait Gérard Carrérou il y a un instant. Et on va en parler tout de suite, après cette pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
C'est déjà la dernière ligne droite de ces débats des grandes voix jusqu'à 11h en compagnie de Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Marine Le Pen à l'Élysée, un risque limité mais bien réel. C'est ce que dit une étude publiée cette semaine par la Fondation Jean Jaurès. Michel Cotta, c'est une possibilité non négligeable, comme il est écrit également dans
oui,
cette étude.
Je pense que c'est une possibilité non négligeable pour plusieurs raisons. La première, on le voit cette semaine, tout ce qui alimente... La peur du terrorisme, la peur de l'immigration, elle le récupère immédiatement. Et on dit même, j'entendais hier des commentaires disant elle est à l'aise dans la défense, etc., dans la défense de la sécurité. Bon, deuxièmement, son personnage a tout de même changé depuis le fameux tête-à-tête présidentiel avec Emmanuel Macron. Alors, peut-être que beaucoup de gens la trouvent inférieure à son mouvement, si vous voulez, mais en tout cas, elle est là, elle est bien là, elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs, elle ne va pas dans l'outrance, et donc elle existe. Et enfin, troisième point, il y a tout de même, on voit bien, le Front républicain qui s'est opposé à Marine Le Pen pendant des années, est en train de se fissurer, et en plus, il y a entre... les électeurs restés aux Républicains et une partie des électeurs du Front National, beaucoup, beaucoup, beaucoup de convergence.
Charles Villeneuve, oui. Michel Cotta disait « elle récupère, elle se nourrit de l'actualité ». Et dans cette étude, il est écrit « c'est en faisant des concessions programmatiques au RN qu'on le fait monter ».
Oui, moi je trouve que les deux facteurs les plus importants ne sont pas là. Je trouve que le risque, ou en tout cas la possibilité de son élection est réelle, parce que le Front républicain, d'abord, ne marche plus. Ça, c'est important. Il n'y a plus de barrage
comme le
au
Michel
Rassemblement
Cotin,
national. C'est vrai. Il n'y a plus de plafond de verre, notamment, aussi, pour Marine Le Pen. Elle est dans une zone entre 45 et 46%. Lorsqu'elle était scotchée à 30%, il n'y avait aucune possibilité.
Voir un sondage
là,
à 48%.
La victoire est difficile, mais elle n'est pas impossible. Et puis, moi, je trouve que son accession au pouvoir... est en grande partie conditionnée au niveau du rejet d'Emmanuel Macron, d'ailleurs selon la Fondation Jean Jaurès. Et là-dessus, c'est vrai.
La détestation du président de la République, Gérard Carrérou, s'est mis en avant.
Oui, bien sûr, évidemment, il y a la détestation du président de la République, mais il y a surtout, et ça j'appuie effectivement ce qu'a dit Michel et ce qu'a répété aussi Charles, c'est-à-dire, on a tous vécu, nous, pendant 40 ans, sur une France binaire. En gros, on était de gauche ou on était de droite. Et évidemment, quand on était de gauche, on ne votait pas pour les candidats de la droite et vice-versa. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui sont... Il y a eu une explosion, effectivement, un début d'explosion en 2017. On a vu les partis traditionnels, etc., la gauche, le bloc de gauche, le bloc de droite, tout ça a explosé. Et du coup, il y a des électeurs aujourd'hui qui, même s'ils ont un peu la tripe à gauche... ne se sentent pas obligés d'aller voter à gauche et vice-versa. Il y a une libération, une agilité de l'électorat qui fait, et on le voit dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, qu'il n'y a plus de Front républicain pour faire barrage à Mme Le Pen. C'est effectivement un fait nouveau qui existe. Donc, Et puis Macron a perdu, le en même temps macronien a perdu de sa magie de 2017.
Plus de Front Républicain, dites-vous, Catherine Ney, il y avait à l'époque de 2002, Chirac, Le Pen, le cordon sanitaire dont on parlait. Celui-là
n'existe
plus.
Oui, mais apparemment, il n'existe plus. Mais là où Marine Le Pen a bien joué, c'est qu'en 2019, 50% des opinions étaient négatives contre elle. Maintenant, il n'y en a plus que 34%. Donc, c'est quand même significatif. Lorsqu'elle a fait une émission l'autre jour avec Gérald Darmanin, pour réparer un peu le mauvais débat qu'elle avait eu avec Emmanuel Macron. Moi, je l'ai trouvée très insuffisante. C'était sur des sujets régaliens. Elle donne des leçons à tout le monde. Quand, par exemple, on lui pose la question « Mais tous ces immigrés clandestins, qu'est-ce qu'on en fait ?» Voilà. Elle dit « Ah, mais j'enverrai, quand je serai présidente, j'enverrai mon ministre des Affaires étrangères, il ira négocier avec ces pays. » Mais vous croyez qu'elle va claquer des dents, les pays vont dire, mais renvoyez-les-nous.
Les doigts.
Je veux dire que...
Gérald Darmanin l'avait traité de molle.
Oui, l'avait traité de molle et tout ça. Mais je veux dire, si c'était si facile, je veux dire, tous les présidents, tous les ministres des Affaires étrangères sont allés demander à ces pays, l'Algérie, le Maroc, enfin tous ceux qui gênaient, de les reprendre. Et ils ne veulent pas parce qu'ils disent, écoutez, ce sont des voyous, gardez-les. Donc, est-ce qu'elle saura... Mais peu importe. Moi, je pense à ce que disait Jacques Pilant quand il parlait d'un candidat. Il disait, dans le fond, c'est l'opinion. Change d'elle-même l'opinion qu'elle peut se faire d'un candidat si elle a envie de voter pour lui. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que tout d'un coup, l'opinion, eh bien, malgré toutes les réserves, malgré de se dire qu'elle n'a pas de talent, malgré qu'elle est plutôt plus mauvaise que ceux qui parlent pour elle et avec elle autour de les gens qu'elle a désignés comme candidat dans les différentes, pour les régions ou autres, elle est moins bonne, mais il n'empêche, elle a une meilleure opinion. Les Français lui accordent une meilleure opinion.
Juste rappeler Jacques Pilant, conseiller aux communications du président François Mitterrand.
Absolument. Et de Jacques Chirac, également. Et
toute merci façon, les grandes voix. Michel Cotta, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. On a plus que 6 minutes après pour parler de notre dernier thème du jour, la mort du président tchadien, allié précieux pour la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron s'est rendu sur place hier pour lui rendre hommage.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.
10h50 sur Europe 1, merci de nous rejoindre pour ce débat des grandes voix. Et on aborde à présent la mort du président tchadien, Idriss Déby, et les conséquences pour la France, qui reste un peu orpheline dans son combat contre le terrorisme au Sahel. Car Charles Villeneuve, le Tchad, c'était le pays le plus actif en Afrique et le mieux doté militairement parlant.
Si vous voulez, qui est très précieuse parce qu'elle est très spécialisée dans la guerre du désert, aux côtés des forces françaises au Mali. Mais si vous voulez, la mort, semble-t-il, les armes à la main d'Idriss Déby est d'autant plus cruciale pour toute la politique de la région qui est plongée dans l'incertitude. Si après la Libye qu'il avait vaincu, qu'il avait mis par terre par sa science de la guerre, la digue tchadienne devait elle aussi céder, toute la région serait engloutie par le terrorisme. Si vous voulez, toute la région, c'est qui ? C'est le Nigeria, le Niger, le Cameroun, la République centrafricaine, le Soudan, Sud et Nord, le Gabon, la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Et c'est en cela, si vous voulez, que sa mort est cruciale pour la suite de cette région.
Est-ce qu'on peut craindre que la lutte contre les terroristes dans cette immense région du Sahel dont vous parlez ne soit plus une priorité pour le nouveau pouvoir qui est incarné par le fils, désormais, d'Idriss Déby?
On peut le craindre parce que l'armée... Bon, depuis le début, on fait la guerre, on a 5000 hommes, on fait la guerre, et on a constaté maintes reprises, et on l'a même dit ici souvent, qu'on n'était pas tellement aidé. On est un peu aidé, les Américains, par leurs moyens, notamment par les drones, et un peu les Européens par de l'argent, mais finalement, globalement, c'est une guerre française. C'est une guerre française pour le salut de la bande sahélienne que tu viens de rappeler, Charles, c'est-à-dire tous ces pays, c'est la ceinture de l'Afrique, si vous regardez la carte.
Dans les pays francophones.
Et dans tous ces pays-là, et donc le risque aujourd'hui est beaucoup plus grand. On ne peut pas faire la guerre pour cette bande sahélienne qui est énorme, en milliers de kilomètres. On ne peut pas faire la guerre tout seul. Et la disparition il y a la Mauritanie qui nous aide un peu en termes d'armée aussi, mais la meilleure armée, c'est l'armée tchadienne. Si pour une raison ou pour une autre, le fils ne tient pas le pays, et si l'armée tchadienne ne veut plus faire la guerre avec nous, eh bien on est mal barré. Européens.
Emmanuel Macron s'est rendu aux obsèques, aux funérailles d'Idriss Déby, ce qui a fait débat, Michel Cotta, parce qu'il était à ses côtés, alors pour saluer en effet son combat contre le terrorisme. Néanmoins, il a adoubé, entre guillemets, l'arrivée au pouvoir de son fils, son processus démocratique.
Je ne pense pas qu'il a adoubé au pouvoir l'arrivée de son fils. Je pense simplement qu'il devait être là à partir du moment où Idriss Déby a été quand même, et on vient de le dire, le seul allié de la France dans cette opération. Moi, la seule question que je me pose, c'est combien de temps la France pourra-t-elle rester en première ligne, et vraiment en première ligne, dans ce combat immense, parce que quand on voit les territoires, on se dit qu'avec...
Cinq fois la France
avec 10 000 soldats, c'est ça C'est quand même petit. Donc la question se pose, si vraiment, est-ce que la France pourra rester en tête de pont alors qu'elle est critiquée, et même elle apparaît comme une puissance colonialiste maintenant, à l'intérieur du Tchad, et à l'intérieur de certains Tchadiens. C'est-à-dire, finalement, se battre contre un terrorisme et que ça se retourne contre vous, à un moment donné, quand même, c'est une situation intenable.
Catherine Ney.
Oui, parce que Hissène Habré,
qui était le prédécesseur d'Idriss Déby.
Le président qui vient de mourir, s'était autoproclamé maréchal il y a un an. Ça avait d'ailleurs agacé un peu les Français, beaucoup sa famille, parce que c'était trop. Il venait de se faire réélire pour la sixième fois, avec des chiffres à la soviétique, évidemment, qui étaient sûrement truqués.
Et là, à l'africaine.
Et là, c'est le fils, qui est militaire, lui aussi, mais qui a 37
général
ans.
Général de corps d'armée.
Qui s'est autoproclamé, mais qu'il n'a pas la connaissance des autres pays, du personnel politique, comme l'avait son père. Est-ce qu'il a la même légitimité? Et ce que l'on peut craindre, c'est qu'à l'intérieur, il y ait vraiment une guerre de succession larvée qui fait qu'il n'aura pas l'autorité. Ce cas, on peut craindre peut-être une guerre civile. Et vous savez que plusieurs fois, la France avait sauvé Idriss Déby des attaques à l'intérieur, plusieurs fois, était venu à sa rescousse. Et là, quand le président Macron a dit dans son oraison funèbre, la France ne laissera pas remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad, mais si jamais il y avait une guerre à l'intérieur du Tchad, que va faire la France? Et alors qu'au dernier sommet du G5, Macron avait dit, la France ne veut plus être en première ligne. Donc c'est quelque chose qui va être très lourd, un dossier très très...
Et ce n'est pas Biden qui ira faire la guerre à notre place en Afrique.
Non, surtout émanant d'une ancienne puissance colonisatrice qui a été la France, c'est d'autant plus difficile de rester et de rester en tête de pont si vraiment, en dessous, il n'y a pas un soutien ferme des puissances africaines.
Que va faire la France et que va faire le Tchad si en effet elle est attaquée par ailleurs et délaisse ses troupes sur le front du combat contre le terrorisme au Sahel mené par les Français à travers notamment cette force Barkhane dont vous parliez, Charles Villeneuve, avec plus de 5000 hommes français.
5005, oui.
Merci à vous les grandes voix pour ce débat. Une nouvelle fois que vous pouvez retrouver en podcast sur europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblat de retour à la réalisation avec grand plaisir. Et puis bien sûr, merci à Capucine Patouillet qui m'a aidé à préparer cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez l'excellent Lionel Gougelot à ma place avec les grandes voix, bien entendu, qui seront toujours là. Tout de suite, c'est la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Bonjour Laurent, quel est le programme?
Bonjour Laurent.
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix.
Bonjour,
vous avez remarqué,
Laurent.
Il fait beau, c'est le printemps, alors on va le cuisiner avec des recettes de grands chefs. Yves Candebord et Olivier Poul se sont à mes côtés et nous recevrons le comédien bon vivant et journaliste Christophe Bourseiller pour le plat du jour. A tout de suite.
A tout de suite.
Europe 1.